le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord. Christophe Pastet.
On jardine avec les bons conseils de Jean-Louis jusqu'à 10h et vos questions 05 53 53 82 82. Jean-Louis, retrouvons votre coup de cœur du jour, un coup de cœur pour une belle sauge venue du Mexique.
Aïe, 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 caliente.
Ipa.
Arriba.
Arriba,
la belle
Arriba.
Salvia microphylla Royal Bumble.
Ah oui.
Ou sauge de Graham. Alors, parmi les centaines de variétés de sauge, majoritairement originaires du Mexique, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est cette fameuse arbustive Royal Bumble. Elle est vivace et elle est vraiment incontournable dans nos jardins, un petit peu comme la bourrache la semaine dernière.
Oui.
L'activité des insectes autour d'elle, c'est la même chose qu'autour d'une bourrache ou autour d'une lavande. C'est-à-dire que vous attirez tout type d'abeilles et tout type d'insectes pollinisateurs. Ça n'arrête pas. Elle est ligneuse, donc elle fait du bois, ce qui va nous intéresser pour la suite. Rustique, si elle n'est pas dans un sol trempé, si c'est un sol qui sèche bien, moins 12, moins 15, ne lui fait pas peur, hein, quitte à ce qu'elle soit un peu paillée sur les moments les plus difficiles de l'hiver. Et quand je dis qu'elle est ligneuse, ça c'est le côté intéressant, parce qu'à partir de fin août, quand le bois est taouté, donc il a passé le mois d'août, le bois est formé, ben, ma foi, ça se bouture. Alors, je ne vais pas dire comme du chien dent, mais peut-être presque mieux.
Ah,
donc
oui,
ça va plutôt bien. C'est toujours intéressant de faire des boutures au mois de septembre avec cette belle sauge. Comme ça, on a des petits plans d'avance pour boucher les trous dans les massifs, etc. Elle adore les sols légers, filtrants et pratiquement, on va dire, pauvres. Quelquefois, l'engrais a tendance à les brûler. Alors, c'est juste une petite poignée d'engrais organique une fois par an, ce sera grandement suffisant. La floraison va démarrer fin avril, c'est pour bientôt. Là, celle qui est en photo sur le Facebook, bah, c'est une que j'ai achetée, que je trouvais particulièrement belle en magasin. Bah, je l'ai rasée, parce que le meilleur conseil qu'on puisse lui faire... Ah bah, j'aurais dû être coiffeur, ah, moi, bah, j'aurais pas dû être jardinier. Hein. Coiffeur, mais chez les militaires, hein, pas
voilà,
pour des coupes spéciales. En fait, quand les plantes, ces sauges, là, évidemment, elles sortent de tunnels, donc elles ont un mois d'avance sur le cycle, quand c'est pas deux mois, aucun intérêt... Alors, évidemment, on plante, il y a des fleurs, c'est génial, mais ça ralentit la végétation de la plante. Donc ce genre d'arbuste là, moi, je plante, je rase de moitié, je fais un bouquet pour madame, allez, ça va durer 8 jours dans le vase, c'est sympa. Et puis surtout, la floraison, elle, en pleine terre, va vraiment s'installer, allez, fin avril, début mai, mais après c'est jusqu'au mois de novembre. Et quelquefois, au mois de novembre, on se demande quoi leur faire tellement il reste des fleurs dessus. Donc dans ces cas-là, un petit coup de sécateur de nettoyage, on laisse passer l'hiver, et le coup de sécateur de formation, lui, revient au mois de mars. Alors le petit paillage au pied, ça c'est intéressant. Le petit coup de sécateur, c'est fait. Bah, cette belle fleur rouge profond sera un des éclats maximum au jardin. Moi j'en ai plusieurs dans les différents massifs de la maison. Et bah, ma foi, l'œil est tout de suite attiré et du coup ça met en valeur tout ce qui est à côté. Les boutures qui sont faites au mois de septembre, octobre, ben, prennent à 100%, donc ce qui permet d'avoir un petit stock pour soi, et puis un petit stock pour les copains, hein, qui passent par là, la famille, ça c'est pas mal. J'en ai vu à tous les prix. Au mois de février, j'avais fait une chronique avec un coup de cœur pour les vivaces, parce qu'elles étaient pas chères à ce moment-là. Ben, à cette époque-là, j'en avais trouvé à 2 €, qui sont déjà très belles dans le jardin. Et là, en ce moment, j'en ai vu des magnifiques. Alors, elles sont en pot de 2,5 litres, 3 litres. Donc, ça fait déjà une belle plante à 7 €. Et en 5 litres, 15 €. Alors, quel est l'intérêt de mettre du très gros pot vu à la vitesse à laquelle ça pousse? Je vois pas. Au Mexique, on l'utilise pour faire du thé. Ils appellent d'ailleurs cette plante la myrte des montagnes. C'est vrai que comme toutes les sauges, évidemment, elle est chargée d'arômes et d'odeurs. Donc, cette belle Royal Bumble, plantez-la proche d'une lavande et vous ferez le bonheur de beaucoup d'insectes.
Voilà, retrouvez en photo, s'il vous plaît, sur notre page Facebook. Vos questions ce matin, jardin au 05 53 53 82 82. Jean-Louis vous attend.
On jardine le dimanche sur France Bleu Périgord jusqu'à 10h.
Et partons tout de suite dans une large plaine glaciaire bordée par le massif des Aravis, le massif du Mont Blanc, le massif du Faucigny. Bref, nous sommes en Haute-Savoie. Reste plus qu'à trouver une certaine dame avec Francis Cabrel.
Je serais fatigué de sourire à ces gens qui m'écrasent. Quand je serais fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases. Que des murs en face de moi, j'irai dormir.
Dame de Haute-Savoie avec Francis Cabrel.
Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord. Christophe Pastet.
On jardine avec les bons conseils de Jean-Louis. Avant de partir sur Archignac, Jean-Louis, oui. Vous vouliez revenir sur les limaces blanches de Jacqueline de dimanche dernier.
Les fameuses tests à sel, où ben, j'ai pas répondu correctement.
Ah mince.
Il a fallu que je retourne dans le passé, ce qui est pas très loin, hein, il y a juste 45 ans.
Oui,
hein.
Voilà.
Trois fois rien. Et en fait, à l'époque, dans les cours horticoles, elle était peu mentionnée, et surtout, elle était mentionnée comme prédatrice des lombrics. Bon, avec ça, on se dit, c'est un ennemi. Ben non, c'est une erreur, mais à culpa, elle fait partie de la biodiversité. En France, il existe trois espèces implantées pratiquement sur tout le territoire, et jusqu'à 1500 mètres d'altitude, 2000 mètres, donc elle a vraiment sa place. Alors évidemment, elle mange les lombrics. En fait, dans la journée, elle descend et elle retrouve leur galerie. Ben, c'est facile, ils laissent une trace de mucus, hein, donc hop, et s'infiltre. Elle a un appareil buccal qui ressemble à celle des lamproies, un truc un peu préhistorique. Elle les mange, mais quand elle sort le soir pour faire un petit tour et changer de territoire, ben, elle a des copains différents qui l'attendent, autres musaraignes, hérissons, etc. Donc, Jacqueline, vous les laissez en place, vous les détruisez pas, la nature a trouvé son équilibre chez vous. Si vous en avez, ça veut dire qu'il y a pas mal de lombrics. Donc c'est donnant-donnant, ça va bien.
La vie trouvera toujours son chemin, Jean-Louis.
Nous allons... C'est vous, ça ?
Oui, bien sûr.
Ah, oui.
Nous allons à Archignac. Christine, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour
Jean-Louis. Vous avez une question concernant vos arbres fruitiers.
Mm-hmm. Oui, j'aurais voulu savoir, j'avais planté deux pommiers. Sur les deux pommiers, il y en a un qui est mort. Est-ce qu'il faut replanter un autre pommier pour la pollinisation ou un autre arbre fruitier ? C'est de savoir s'il faut plusieurs... deux pommiers par deux pommiers pour avoir une bonne pollinisation.
Monsieur et madame.
Oui. On va revenir, ça a été souvent des sujets qu'on aborde en hiver, hein, quand on plante les fruitiers, il ne faut pas se tromper. Quelle variété de pommiers vous aviez planté ?
Ben, j'avais mis un arbre à canne et l'autre c'était les rainettes étoilées.
Mm-hmm. Alors, si vous devez replanter un autre pommier, obligatoirement vous planterez une variété qui est un pollinisateur général. Donc un pollinisateur général chez les pommiers, c'est Reine des Rainettes ou Granny Smith. Ces deux variétés-là ont la capacité déjà d'être auto-fertiles, donc ils se débrouillent tout seuls, ce qui est plutôt pas mal, mais ils ont surtout la capacité d'aller polliniser quasiment 90% des autres variétés de pommiers.
Okay.
Donc ça c'est une chose. Si vous plantez des pruniers, alors vous adorez les Mirabelles et les Quetch, ben, tant mieux, vous avez raison, c'est des bonnes variétés, ben, c'est sympa et obligatoire, pour les mêmes raisons de fertilisation, d'aller planter un prunier ou un Reine Claude doré, que tout le monde adore, la belle Reine Claude de la deuxième quinzaine d'août, ou un Reine Claude qui est moins connu mais qui est hyper pollinisant, qui s'appelle la Reine Claude d'Oulins. Oulins, c'est une banlieue à côté de Lyon, ça fait une très grosse Reine Claude, plus précoce, hein, elle arrive en première semaine d'août, ça c'est des champions de la pollinisation. Dans les poiriers, vous mettrez obligatoirement, alors vous aimez bien la doyenné du comice ou la, la conférence, c'est très bien, j'adore moi aussi la doyenné, ben si à côté elle a un poirier Williams, d'un seul coup, au lieu de donner 10 poires, ben elle va en donner 30 parce qu'il y a une masse de pollen beaucoup plus importante. Et pour finir, dans les cerisiers, il y a énormément d'erreurs dans les cerisiers. C'est un peu légitime. N'importe quel amateur, quand vous lui demandez quelle variété de cerise tu aimes, oh ben moi j'aime la Burla. 9 fois sur 10, j'aime la Burla. Oui, c'est bien, mais la Burla, elle n'est pas auto-fertile à 100%. C'est-à-dire que si elle n'a pas un copain fertilisant dans son périmètre, alors ou par bonheur des merisiers autour de votre champ, ben là, ça, c'est facile, c'est fait. Mais l'idéal, ça serait de planter un bigarreau qui s'appelle Vent, V-A-N, ou Bigarro géant des Delphingen, c'est une autre variété. Alors ces deux-là se pollinisent nickel, ils sont capables de donner des fruits tout seuls, mais ils ont une capacité d'aller polliniser les copains cerisiers à côté, qui est vraiment très importante. Donc attention à l'association des variétés. Vous savez bien que dans les fruitiers, on va essayer d'être complet. Il y a un minimum de traitements. C'est des traitements naturels. Bouillie bordelaise à l'automne, bouillie bordelaise avant la floraison. Un apport d'engrais par an et un engrais sans azote si c'est possible. Et puis des petits coups de sécateur pour éliminer les branches qui se croisent, les branches dangereuses, etc. Donc il y a toujours un petit peu d'activité dans le fruitier.
Ok. J'aime merci bien le sans azote. Merci pour toutes ces informations.
Merci à vous, Christine.
Bonne journée.
Très bon
merci
dimanche
beaucoup,
à Archignac.
Bon
un petit peu de Périgord pourpre, tiens. À Aimé Gilles, bonjour.
Bonjour Jean-Louis.
Ah, vous avez une question, Gilles, qui va fortement m'intéresser. On vous écoute.
Voilà, donc nous avons un peuplier qui fait à peu près une trentaine de mètres de hauteur et qui est à environ à 10 mètres de notre terrasse. Et on s'inquiète parce que on avait vu une émission il y a quelque temps où les racines justement arrivaient jusqu'à la maison.
Et oui, ma femme s'inquiète aussi des peupliers du voisin.
Oui. Voilà.
Et oui.
Dites-moi, le réseau, comment dirais-je, ce qu'on appelle le puits perdu, le traitement des eaux usées, est dans le secteur du peuplier ou pas?
Alors, le réseau doit être à peu près à une quarantaine de mètres.
Ah bon,
environ,
ça va, parce que plus proche, lui, il sera champion de toute façon pour aller trouver la fraîcheur, comment dirais-je, des drains, etc. Alors, vous me dites, à 10 mètres de la terrasse, est-ce que c'est un peuplier qui a été régulièrement émondé, taillé ou pas du tout?
Alors, non, nous sommes ici depuis 6 ans. Nous, en ce qui nous concerne, on n'a pas fait tailler. Bon, il y a quelques branches qui sont tombées quand il y avait du vent.
Bien sûr.
C'est vrai que quand il y a beaucoup de vent, c'est impressionnant parce qu'il se plie. Alors,
On va dire qu'il est
mais
un peu plié.
Mais ne rompt pas. Mais il est un peu plié. Bravo, bravo, oui. Jean-Louis.
Bon, bah.
Non, bien celle-là.
Bon alors Gilles, il y a deux options. Soit c'est un peuplier classique, c'est-à-dire un peuplier noir d'Italie ou un peuplier de reboisement qui s'est retrouvé par là, un nid 214. Bon, ce sont des peupliers. Quand vous regardez après les coups de vent, vous en voyez rarement par terre. Il y a plein d'autres plantes qui tombent d'abord, hein, notamment les noyers, des chênes, les pins évidemment. Mais les peupliers, on les voit rarement par terre. Il y en a un qui est embêtant. C'est un peuplier qui s'appelle le peuplier blanc de Hollande, qui est un peuplier de grand développement. Il a moins une forme colonnaire, mais il a une feuille magnifique, grise, légèrement duveteuse. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est un peuplier classique?
Ce sont des feuilles vertes.
Feuilles vertes. Bon, bah, tant mieux, parce que ce peuplier de Hollande, lui, sa spécialité, c'est la découverte des autres horizons. Hein. Il nous drageonne de partout. C'est-à-dire que si vous en avez un dans le fond du jardin, on va dire que 10 ans après, même si vous habitez à 40 mètres de la plante, et vous le retrouvez devant votre maison. Donc, non, pas de gros problème. Quand vous tondez la pelouse, vous n'avez pas de pousse de peuplier qui dégage de tous les côtés, qui sortent de tous les côtés.
Alors, mon épouse a trouvé, pas loin de la dalle, des petites racines qui sortent comme ça, qu'elle enlève au fur et à mesure. Mais ce sont des toutes petites racines. Sinon, ben, au fond du peuplier, il y a des grosses racines qui s'étendent sur à peu près 1,50 m, on va dire.
Ouais. Dans l'immédiat, moi, je pense que c'est pas plus embêtant que ça. Maintenant, vis-à-vis de votre voisinage, il est en limite de propriété, ce peuplier?
Ah non, puis alors les voisins en ont 5 ou 6 qui sont juste derrière notre haie. Et nous, par contre, c'est à peu près à 4 mètres de la haie.
D'accord. Haie, oui. Bon, bah, écoutez, il n'y a pas d'urgence, vous êtes bien peuplé en peuplier, on va dire ça comme ça.
Oui.
Et éventuellement, dans le futur, si vous trouvez qu'il vous angoisse parce que vous trouvez qu'il a pris vraiment de belles dimensions, vous faites venir un élagueur, il va vous l'émonder, ça ne changera rien à sa pousse, à sa vigueur, et puis ça vous laissera quelques années supplémentaires pour en profiter, parce que c'est sûr qu'un jour ou l'autre, quand ils ont des troncs avec lesquels un homme ne peut pas faire le tour avec ses bras, là, ce jour-là, ça devient des sacrés bestiaux. Ouais. Donc là, dans l'immédiat, non, Gilles, pas plus inquiétude que ça.
D'accord. Bon, ben, très bien.
Voilà,
ben,
Gilles.
Merci beaucoup.
Bon dimanche à vous. Aimez votre jardin et vos questions à Jean-Louis ce matin jusqu'à 10h, 05 53 53 82 82.
On jardine le dimanche sur France Bleu Périgord avec les menuiseries Segui, portes et fenêtres fabriquées ici, installées par nos partenaires menuisiers. Rejoignez-nous sur menuiserie-segui.fr.
Elle a moins d'années de carrière derrière elle que Jean-Louis, mais 22 années quand même déjà pour Vita qui n'oublie pas.
Là, sur un bout de papier, quelques mots effacés de toi. Moi, je serai plus jamais la même, je vais essayer quand même, et toi. C'était vrai. Oh, je reste accroché au passé. C'est tellement dépassé. C'est n'importe quoi.
Avec Vita.
Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord.
Avec vos questions à Jean-Louis, 05 53 53 82 82, nous allons à Chenot. Simone, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez fait du vinaille, Simone. Félicitations.
Oui, j'ai préparé l'an dernier, j'en ai préparé moi-même et il m'en restait, donc je l'ai tenu en bidon bien fermé. Et est-ce que vous pensez que je peux l'utiliser cette année, qu'il n'a pas perdu ses propriétés?
Non, vous allez pouvoir l'utiliser, Simone, mais le bidon s'est déformé un peu au cours de l'année dernière ou pas?
Non, parce
que quelquefois, c'est des produits, c'est des purins, hein, des fermentations, ça finit par déformer un petit peu les bidons. Alors, avant de l'utiliser, vous allez l'ouvrir délicatement pour que l'air qui arrive de la fermentation soit libéré. Vous refermez le bidon, vous mélangez bien pour que tout soit à nouveau bien brassé, et vous pouvez l'utiliser. Mais dites voir sur les pêchers, vous n'avez pas commencé à traiter déjà?
Si, j'en ai... Une fois, à vrai dire, il pleuvait tellement.
Oui.
Donc, j'en ai utilisé, mais sans trop savoir. Et par contre, je trouve qu'il a perdu de l'odeur par rapport à l'an dernier. Sinon, il n'y a aucun signe de fermentation. Non.
D'accord. Il est bien coloré, il n'a pas changé de couleur.
Dès
ce soir ou demain, parce qu'apparemment il y a un léger changement de temps à partir de mardi, vous refaites un traitement. C'est en fait, on sait très bien que ces produits, ces vinailles, sont des produits qui sont des boosters pour la plante. À aucun moment ils ne vont détruire la maladie. Ils vont surtout donner tellement de vigueur à la plante que la maladie n'est pas suffisamment forte pour prendre dessus.
Donc, sachant
que la cloque du pêcher est un champignon qui se développe tant que les nuits sont inférieures à 10-12 degrés, en avril, mai, tous les 15 jours, si on peut le faire, on le fait. Et du coup, on a des pêchés. Alors, il y aura toujours quelques petites attaques à droite, à gauche, mais c'est secondaire, ça ne prend pas sur la plante. Ça ne prend pas le dessus. Donc, à la limite, moi, je serais vous, je le sortirai de ce bidon pour le filtrer, et puis je le remettrai dedans une fois filtré, et puis allez, vous le finissez cette année, ce sera bien.
Oui. D'accord.
Voilà, Simone.
Et est-ce que justement comme c'est fait pour booster les plantes, est-ce que je peux en passer sur la vigne pour éviter les attaques de mildiou, pour fortifier la plante. Comme l'an dernier.
Ça va le fortifier, ça c'est très important. Et rassurez-vous, s'il vous en reste, vous pourrez le mettre juste après la floraison, parce que c'est un produit qui a une très belle action contre le ver de la grappe sur la vigne.
Ah, d'accord.
Donc vous pouvez y aller à n'importe quel moment, avant, après floraison, après gourmandage, etc. Il n'y a aucun problème.
D'accord. Et une toute petite question. Est-ce que vous pensez que c'est pas trop tard pour tenter une greffe?
Ah, je pense que c'est vraiment tard.
Il vaut mieux attendre.
Surtout là, après les 2-3 journées que l'on a eues, en plus aujourd'hui et demain encore, où ça va pas être trop mal, ça y est, la végétation est bien chargée. Alors, si c'est vraiment du sauvetage, vous pouvez toujours tenter, mais on est bien avancé sur le calendrier quand même.
Voilà, Simone, bon dimanche à vous, à Chenot. Dans un instant, Jean-Louis, nous partirons pour Saint-Geniès. On a des problèmes autour des fèves.
Ce dimanche, de 11h à midi, notre invité sera Clément Masseyou, membre de l'association La Pachem. Il nous donnera tous les détails de cette course de relais qui traverse 5 départements pendant 5 jours et nuits, qui a pour but de mettre en avant les valeurs du sport et la défense de la langue occitane. Les sports chez Faye en Occitan, chez France Bleu Périgord.
Et voilà, depuis qu'il a été chez Atoll, papa il peut de nouveau voir son poids sur la balance. Mais voilà, il faut quand même qu'il rentre le ventre.
Bénéficiez d'un examen de la vue offert chez votre opticien Atoll en prenant rendez-vous sur atoll.fr. Ce test n'est pas un examen médical, voire condition sur atoll.fr.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Périgord, ici, on parle d'ici.
Et ici, en Dordogne, il est 9h34. Et nous, le jardin, ça se poursuit avec Jean-Louis jusqu'à 10h. Nous allons à Saint-Geniès. Brigitte, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous avez un problème avec vos fèves, Brigitte.
Voilà, c'est-à-dire que hier soir, j'ai fait un tour de mon jardin de plantes et j'ai vu qu'il y avait des pucerons sur les rosiers et je me suis dit, oh là, peut-être aller voir les fèves. Et effectivement, ça commence sur le haut des feuillages de la plante. Voilà, c'est noir de pucerons.
Dites-moi, Brigitte, ces fèves, elles ont été semées quand?
À l'automne.
À l'automne, ah oui, donc malgré tout, parce que la bonne période c'est le semis d'automne, hein, on dit toujours que le semis d'automne éloigne les pucerons, ben, en l'occurrence là ça n'a pas marché, après il n'a pas fait froid du tout de l'hiver. Est-ce que vous avez l'habitude de les étêter les fèves ou pas?
Alors pas toujours, et c'était aussi une de mes questions, est-ce qu'il est indispensable de les étêter?
Ah c'est indispensable, vous multipliez la récolte par deux, et puis surtout les tiges vont être beaucoup plus costauds, plus ramifiées, et elles ne seront pas ballottées par le vent quand il y aura tous les fruits qui sont accrochés sur les extrémités. Alors le traitement, vous savez bien, hein, on le dit souvent, il n'y a plus de produits pétrochimiques. Deux insecticides naturels ont un très bon résultat. Alors je pense que Christophe serait capable de le citer tellement on en parle, c'est le fameux Spruzit.
Oui.
Donc là c'est de l'huile de colza dans lequel il y a de la pyrèthre végétale, donc ça marche très bien. Et l'autre c'est un produit de chez Solabiol. Alors j'ai pas son nom en tête, mais dans tous les magasins qui le vendent direct, ils mettent la main dessus. C'est un produit à base d'huile essentielle d'orange. Et alors, il a une particularité, c'est qu'il dessèche, il dessèche la cutine de l'insecte très vite et l'insecte meurt très très vite. Moi, j'ai fait les deux sur de la cochenille, j'ai fait les deux sur des pucerons, des trips, etc. Ça fonctionne très bien. Vous le faites évidemment au pulvérisateur, en allant bien chercher tout le monde, hein, dessous, dessus, il faut vraiment que ce soit un traitement complet. Et si possible, dans la même heure, vous refaites un passage pour être sûr d'être passé vraiment partout. Ce sera plus qu'un lointain souvenir. Débarrassez-vous-en vraiment sur les fèves, parce que si ça prolifère énormément, la récolte peut être compromise, ou alors vous aurez des fèves qui seront ridicules, quoi. Donc,
c'est à faire. Apparemment, ça démarre juste. Je l'ai vu que sur un pied, donc je me dis qu'il est grand temps d'intervenir avant que, effectivement, ça.
Voilà. Quelle hauteur elles font?
Comment?
Les fèves font quelle hauteur?
Oh, à peu près 80 cm.
Ah ouais, il aurait fallu les pincer bien avant. En général, on pince et on bute. Mais là, 80 cm, non, vous ne faites que traiter. Trop tard pour les pincer.
D'accord, parce que là, certaines ont encore des fleurs, et certaines ont des fleurs qui sont fanées, et j'ai vu qu'il y avait quelques petites fèves qui font 3-4 cm.
Alors, l'année prochaine, quand on est rendu, quand la végétation se réveille et que les fèves font quoi, 20, 25, 30 cm, c'est à ce moment-là qu'on leur casse la tête. Et on les bute, direct.
Oh là, bah dis donc.
Ah bah oui, c'est un langage de caïd. Hein. Moi, je casse la tête et je les bute.
Ah bah dis donc.
C'est ça. Je ne vous connaissais pas sous cet angle-là, mais bon, comme quoi, on ne connaît jamais vraiment les gens, quoi.
Ouais. Je vous parle, j'ai un chapeau et j'ai une mitraillette. Hein.
C'est votre jardin ce matin avec Michel Audiard. Brigitte, on vous souhaite un bon dimanche à Saint-Geniès.
Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Et on les éparpille menus après.
Voilà, vos questions jardin au 05 53 53 82 82 et punition immédiate pour Jean-Louis. Interrogation écrite sur la musique avec un chanteur qui se serait installé, selon mes dernières informations, en Dordogne. Son vrai prénom, c'est Jérôme, mais il est natif de Boulogne-Billancourt. Ça vous dit rien du tout. Bon.
Ah non.
Si je vous dis que son pseudonyme, c'est Vivien Savage, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Encore moins, monsieur.
Nous sommes en 1984. Il y a un tube au top 50. La petite Lady, ça vous dit rien, peut-être?
Non.
Méchant personnage.
Oui.
Toutes les chansons de votre vie sont ici, sur France Bleu.
Ressemble au tatouage que je...
Des années 80, c'est sur France Bleu Périgord avec Julien Savage et sa formidable petite lady.
9h-10h, on jardine sur France Bleu Périgord.
Avec les bons conseils de Jean-Louis, nous allons à Champ-Romain. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour Jean-Louis.
Eh bien, qu'est-ce qui se passe Jean-Louis ? Jean-Claude, vous avez fait une boulette ?
Oui, c'est-à-dire que j'ai des pommiers, des pêchers, des pruniers, et j'ai mis des cendres de bois au pied. Et alors, je sais pas ce qui se passe, moi, ils n'ont pas fleuri, ils ont des petites feuilles, je crois que je les ai brûlées.
La cendre était froide, rassurez-moi.
Oui, les cendres étaient froides, Jean-Claude. Oui.
Je sais pas, je crois que j'en ai trop mis, surtout, bon. j'en ai mis... comme ça, je sais pas, moi, peut-être l'équivalent d'un sac.
Alors, un sac par plant ?
Oui.
Oh là là. Bon, Jean-Claude, ça, évidemment, ça va pas être à refaire. La cendre, alors j'ai beaucoup de jardiniers qui sont pas contents quand je dis ça, mais c'est un ennemi au jardin, c'est surtout pas un ami. Quand je dis c'est un ennemi, c'est que les jardiniers ont toujours tendance à mettre beaucoup de choses. Et la cendre, il faudra en mettre très peu. Alors autour des salades qu'on vient de repiquer ou autour des semis qu'on vient de faire pour pas que les limaces et autres escargots viennent se balader. Et puis le restant, niet. Pourquoi ? La cendre, c'est un résidu de combustion. Je vais vous donner un ordre d'idée. Une brouette de cendre, alors tout le monde nous dit, oh là là, mais il y a de la potasse là-dedans, c'est fantastique, il y a de la chaux. Oui, oui, il y a de la potasse, mais de la potasse qui n'est pas échangeable. C'est-à-dire que elle est bloquée, elle a une écriture chimique qui fait que pour une brouette de 50 kilos de cendre, grosso modo, c'est l'équivalent d'une cuillerée à café de potasse qui va rester, soit pas grand-chose. Le pire, c'est qu'il va rester une pelle de carbonate de chaux. Le carbonate de chaux, c'est la forme très difficile à digérer par le sol du calcaire, du calcium. Et surtout, cette cendre, elle finit par étouffer toute vie organique. Alors là, on va être dans l'urgence. Dites voir, au pied de vos fruitiers, il y a moyen de griffer ou de passer un petit outil de surface, une petite motobêche, quelque chose comme ça ou pas ?
Oui, bien sûr, c'est un problème, oui.
Bon, ça va être ça l'urgence. Dites voir par-dessus ça, vous n'avez pas rajouté d'engrais complet, style
3x15 Non, c'est tout comme ça, j'en ai comme ça. Alors, j'ai dit, tiens, ça devrait être bon, mais c'est que j'en ai pas mis un peu. Oh là là.
Bon, alors, est-ce qu'il y a encore moyen de la gratter avec le râteau, cette cendre excessive, là ?
Oui. Bon, oui, alors
vous allez déjà en gratter le maximum et vous me mettez ça tout sauf là. Ensuite de quoi, un léger travail superficiel du sol. Vous allez apporter un tout petit peu d'engrais, de l'engrais organique que vous allez acheter en poudre ou en granulé. Hein, vous avez le choix sur le marché. Et puis vous allez pailler ce sol. Pourquoi ? Parce que la cendre, elle a asphyxié le sol. C'est un mélange de différents éléments dans lequel l'air et l'eau circulent. À partir du moment où on met de la cendre, eh ben, cette microporosité du sol, elle est bouchée, évidemment, par la poussière de cendre. Et du coup, il n'y a plus d'échange d'air, il n'y a plus d'échange d'eau. Et les insectes qui sont en dessous, qui sont, on va dire, les meilleurs alliés pour transformer et pour nourrir nos végétaux, ben, ma foi, ils ont été asphyxiés. Alors, vous grattez la cendre. Un travail superficiel, hein. C'est juste pour décompacter le dessus. Vous apportez un tout petit peu d'engrais. Et si possible, vous mettez de la paille pour que le sol respire. Et puis après, on va croiser les doigts, Jean-Claude, et vous nous appellerez d'ici un mois pour voir s'il y a du redémarrage derrière ou pas.
Est-ce que mes fruitiers vont être perdus ?
Alors, ça dépend de la dose qui a été mise, mais on peut imaginer qu'ils vont avoir une année difficile, oui.
Parce qu'ils n'ont pas de fruits, ils n'ont pas fleuri, ils ont des toutes petites feuilles minuscules.
Oui, et vous l'avez mis quand, cette cendre, là ?
Oh, cet hiver, là.
D'accord. Et l'année d'avant, il y en avait eu demi déjà ou pas ?
Non.
Bon, il y a dû avoir une jolie dose. Bon, vous faites ça, on croise les doigts, et puis vous nous rappelez, fin mai pour savoir où on en est.
Vous nous tenez au courant, Jean-Claude.
D'accord.
Bonne journée à Champ-Romain, votre jardin avec Jean-Louis. La suite dans un instant, tout de suite un petit tour du côté de Hambourg avec Zoé Wess.
Still get a little bit nervous, fighting my anxiety constantly. I try to control it, even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Hurts when I remember, and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, 'cause I can't express how thankful I am that you were always with me when it hurts. I know that you'd understand. I don't wanna lose control. Nothing I can do.
Control avec Zoé West.
Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord. Christophe Pastet.
Et pour votre jardin, nous allons à Sorges. Jean-Louis, je vous présente. Mmh. Jean-Louis, bonjour.
Bonjour.
Quel beau prénom.
C'est vrai. Vous avez un abricotier, Jean-Louis.
Oui, oui. Je vous pose cette question parce que je l'ai eu pour mon anniversaire et c'est un abricotier, ne vient pas plus haut de mètre. Mais je voudrais savoir quand c'est qu'il faudrait que je le remporte parce qu'il est d'un coup de 30 cm.
Oui.
Et...
Ouais, Jean-Louis, on vous a fait ce cadeau-là. Alors, c'est une plante originale, mais je vais tout de suite mettre un petit bémol. Tous ces fruitiers que l'on qualifie de nains, on voit des magnifiques photos sur des catalogues par correspondance où on a des colonnes de fruits qui font un mètre de hauteur. Il n'y a même pas de feuilles tellement il y a de fruits. J'y crois pas et mon expérience fait que j'ai raison de pas y croire parce que j'en ai jamais vu vivre très longtemps. Alors, on va quand même mettre toutes les chances de votre côté. Il est entendu que là, il est dans un pot de combien de centimètres, vous me dites ?
De 30.
30. Donc, si on vous l'a offert, c'est que vous n'avez pas de jardin, c'est pour cultiver sur une terrasse, c'est ça ?
Oui, terrasse ou balcon.
D'accord. Bon, alors, de toute façon, il est dans un pot de 30 centimètres. Quelle hauteur fait-il pour l'instant ?
Oh, mais là, il fait... 70, 80 à peu près.
Il est quand même dans un pot déjà d'une jolie dimension. Vous l'avez eu.
Mais le tronc qui fait à peu près 3 cm de diamètre déjà.
Oui, d'accord. Vous l'avez eu quand cet abricotier ?
Au mois de mars.
Bon, alors, on va pas se casser la tête à le changer maintenant. Évidemment, c'est une plante en pot, donc à vous de vérifier l'arrosage régulièrement. Moi, ce que je vous ferais faire, c'est arrosage avec de l'engrais liquide. Comme c'est sur une terrasse, ça sera plus facile à mettre en œuvre. Vous allez acheter de l'engrais liquide en magasin. Alors, de l'engrais liquide, c'est organique. Vous prendrez l'engrais liquide universel ou tomate, l'un ou l'autre. Alors, ce sont les deux qui seront bien chargés en potasse et en phosphore. Et ça va surtout contribuer à ce que cette plante-là soit résistante et se débrouille bien. Le changement de pot, eh ben on lui fait faire une saison complète chez vous, voir comment il se comporte. Et si changement de pot il y a, ce sera l'année prochaine, au mois de février-mars. Dans l'immédiat, eh bien je lui ferai vivre sa première année avec vous, comme ça, sans le brutaliser, voir un peu ce qu'il va donner. Arrosage à l'engrais régulièrement, puis surtout, quand vous partez en vacances, au bout de 3 jours, il faut que quelqu'un vienne l'arroser. Hein.
Voilà, Jean-Louis, on vous souhaite un bon dimanche à Sorges. Merci pour vos bons conseils d'aujourd'hui, Jean-Louis.
Oui, une belle journée, ça sent le barbecue et la sieste à l'ombre, c'est pas mal comme programme. Hein.
Ça, c'est du beau programme.
Merci.
À dimanche prochain.
Je devrais faire de la politique.